en la poursuite de mon apprentissage du français. Je viens de commencer des cours particuliers avec un nouveau tuteur de français, donc c'est une bonne occasion de documenter mon processus actuel au cas où il aurait des suggestions. Mon journal. Je commence par mes entrées de journal que j'écris sur mon téléphone tout au long de la journée, un peu par-ci, un peu par-là, sur l'application Oxley Revived. Je les synchronise avec mon ordinateur grâce à SyncThing. Oxley utilise le champ de texte standard dans lequel un correcteur automatique est intégré. Pour chercher des mots dans le dictionnaire, je consulte Word Reference où je prends une note pour les revoir plus tard. Si je veux traduire une expression que je ne trouve pas sur Word Reference, j'utilise Google Traduction. Les deux sont moins pratiques que de chercher les mots sur mon ordinateur sous Emacs, mais le compromis en vaut la peine car je peux écrire n'importe quand et n'importe où. Ça me permet d'utiliser le temps mort quand je dois attendre ma fille ou quand je me blottis sous les couvertures. Réécrire. L'écriture de textes longs et la correction sont beaucoup plus faciles sur mon ordinateur que sur mon téléphone grâce à la taille de l'écran et à quelques fonctions que j'ai développées. Je dois utiliser le correcteur d'orthographe FlySpell parce que j'oublie souvent les accents. J'ai aussi besoin d'un correcteur grammatical. J'utilise donc Grammarlect via FlyCheck sur Emacs pour identifier les erreurs d'accord du nom avec l'article, l'adjectif ou le verbe. Mais Grammarlect ne peut pas détecter les anglicismes ou les mauvais choix de mots. J'ai essayé quelques modèles d'IA pour obtenir des commentaires. Pour le moment, je préfère Gemini ou Claude. L'API gratuite de Gemini est limitée à 20 requêtes par jour, donc il vaut mieux corriger mon journal quotidiennement au lieu de le mettre de côté jusqu'à mon rendez-vous avec mon tuteur. Claude n'offre pas d'API gratuite. Pour l'essayer de temps en temps, j'utilise SpookFox qui contrôle Firefox depuis Emacs. J'affiche le résultat de l'IA avec FlyCheck sous Emacs qui souligne les erreurs et en affiche l'explication. Ça facilite la réécriture. Je peux voir automatiquement l'explication de l'erreur à l'emplacement du curseur et je peux aussi naviguer vers la prochaine erreur. Quand j'ai des questions ou des clarifications, je les pose à l'IA. Après plusieurs révisions, je remarque quand l'IA commence à tourner en rond. Pour minimiser ça, je lui envoie mon bouillon actuel avec l'historique des suggestions. J'ajoute les commentaires à un journal de bord pour chaque entrée. Ce journal de bord est en fait disponible via le lien View Orgsource for this post au bas des articles. Un jour, je les analyserai pour visualiser la fréquence des types d'erreurs et générer des questions qui m'aideront à apprendre. Je veux faciliter la correction sur mon smartphone, mais le petit écran me limite. Soit je dois passer souvent d'une application à l'autre, soit j'essaie d'intégrer la fonctionnalité à l'écran. Si j'ajoute un bouton pour accepter la suggestion au lieu de taper moi-même, je risque de ne pas apprendre aussi efficacement. C'est contre-productif car cela développe la mémoire du clic au lieu de la mémoire orthographique. Si je clique sur l'emplacement de l'erreur pour taper moi-même, la reconfiguration de l'affichage pour le clavier à l'écran est déroutante. Je me demande quel type d'interface serait le plus adapté. L'usage de l'IA pour peaufiner mes textes n'est donc qu'une illusion de compétence. Au fond, je reste une débutante. Cependant, je pense que c'est utile car cela m'habitue aux subjonctifs, aux conditionnels et aux expressions plus naturelles plutôt qu'aux anglicismes dans le contexte de mes centres d'intérêt et de ma vie quotidienne. Comme lorsque l'on joue du piano, il vaut mieux s'exercer précisément, même si c'est lentement, plutôt que de prendre de mauvaises habitudes. Si je travaille davantage, je finirai par les corriger moi-même. L'IA n'écrit pas pour moi. Je choisis les idées et j'écris les brouillons. En revanche, il faut que je fasse les corrections moi-même pour apprendre. Si l'IA n'existait pas, je prendrais plus lentement via les cours particuliers qui sont chers ou via les forums gratuits. Peut-être que je choisirais un autre loisir. Les enregistrements. Après avoir essayé de corriger ma grammaire avec ces outils, j'enregistre mes tentatives de prononciation. J'aime les pratiquer dans le contexte de phrases parce que la combinaison des sons m'embrouille souvent et aussi parce que les phrases viennent de mon journal et me rappellent certains moments. Pour ce faire, j'utilise une fonction pour transformer mes phrases en sous-titres et je les enregistre phrase par phrase. Avant chaque enregistrement, j'écoute un modèle de prononciation en utilisant la synthèse vocale de Google Traduction via une bibliothèque Python. J'écoute, je répète, j'écoute, je répète. La synthèse vocale. L'intonation de Google Traduction est un peu plate, donc je dois faire un effort pour y mettre de l'animation quand je répète. Je peux aussi passer au moteur de synthèse vocale d'Azure qui est plus naturel, mais pour une raison quelconque, je préfère l'intonation de Google Traduction. Quand ma prononciation serait un peu meilleure, je voudrais essayer de cloner ma voix comme si quelqu'un avait ajusté le ton de sa voix clonée lorsqu'il étudiait le chinois. Je pense que l'écoute d'un modèle de sa propre voix a un impact psychologique intéressant. Une fois que j'ai terminé mes enregistrements, j'écoute souvent toutes les paires de modèles et d'enregistrements pour les réévaluer. Je les refais si c'est nécessaire. L'écoute des différences entre les sons est une grande partie de l'amélioration de la prononciation. Donc, j'étudie les cours de phonologie du FSI et d'autres ressources de temps en temps. Après beaucoup de tentatives, j'utilise le Sabre Record sur Emacs pour assembler l'enregistrement final, peut-être en alternance avec un carillon. De cette façon, même si j'enregistre les expressions au lieu de phrases complètes, elles n'embrouillent pas les auditeurs. Je souhaite également simplifier cette tâche sur mon smartphone. J'ai créé un outil pour faciliter l'écoute de la synthèse vocale phrase par phrase en utilisant l'API WebSpeech de Google Chrome. Je peux ajouter une fonctionnalité pour enregistrer mes tentatives, peut-être avec l'aide de la reconnaissance vocale pour minimiser les clics. Puis, je peux télécharger tous les enregistrements finaux accompagnés d'un fichier de sous-titres qui correspondent au fichier audio. Si je le fais, je peux utiliser les temps morts pour enregistrer des courts extraits que je peux assembler sur mon ordinateur. La publication. J'utilise Montreal Forsterliner pour générer des ordres de tâches mot par mot. Pour publier sur mon blog, j'entoure le texte dans Blog Org Mode pour associer le fichier au lien suivant. J'inclus le fichier de l'enregistrement final et j'ajoute des ordres de tâches par paragraphe ou par point pour faciliter la navigation. Pour éviter les désordres, je n'affiche pas d'ordre de tâches par mot, mais dans le sous-titre actuel sur les lectures audio, mon logiciel me permet de cliquer sur un mot pour réécouter le son à ce moment-là. Bien que je sois un peu gênée de publier mes brouillons et mes enregistrements avant que mon tuteur ne corrige tout, ce n'est pas la fin du monde. C'est facile à mettre à jour. Je pense que c'est comme une thérapie d'exposition, ce qui m'aidera à me délier la langue. Les rendez-vous. Chaque semaine, je rencontre un tuteur pour identifier les expressions maladroites et les mots dont je dois travailler la prononciation. Ça vaut la peine car de temps en temps, l'IA génère des suggestions bizarres que je ne suis pas en mesure d'évaluer parce que je suis un débutant. Je ne trouve pas non plus de bonne manière d'utiliser l'IA pour corriger ma prononciation. La plupart des approches utilisent la reconnaissance vocale, mais c'est trop clément parce que celle-ci devine de manière probabiliste le sens. Je suppose que je peux utiliser la reconnaissance vocale pour fournir des scores de confiance mot par mot, ce qui semble être l'approche que d'autres applications utilisent. Le Montreal Force Learner peut aussi identifier le phonème, donc je peux éventuellement l'utiliser pour souligner les mots sur lesquels je m'embrouille avec le voyelle ou la lettre muette, mais je crois que la transcription précise en API n'est pas un problème résolu. D'un autre côté, un interlocuteur réel peut non seulement identifier facilement mes erreurs, mais aussi me guider pour les corriger en expliquant les mouvements de la langue ou des lèvres ou en suggérant des mots similaires pour enchaîner le son. C'est une bonne occasion d'essayer d'apprendre avec un enseignant et ça montre à ma fille que j'accorde de l'importance à l'apprentissage. Avant le rendez-vous avec mon tuteur, j'exporte mes entrées d'Old Mode en HTML et je copie mes entrées dans un document à partager sur Google Docs. Pendant le rendez-vous, je lance mes enregistrements si j'en ai ou je lis mon journal à voix haute. Mon tuteur explique ses corrections et il écrit ses commentaires dans le document. Je répète les mots ou les phrases jusqu'à ce que ce soit correct. Ma prononciation a toujours besoin d'être grandement améliorée, donc c'est très utile de pouvoir lire les mots pendant qu'il écoute. Je pense que si je crée un logiciel pour synchroniser les sous-titres actuels avec ma sélection dans notre document, partagé sur Google Docs, ça nous aidera à suivre où j'en suis plus facilement pour que mon tuteur ajoute ses remarques. Une fois que nous nous serons habitués l'un à l'autre et que mon tuteur pensera que c'est gérable, nous pourrons discuter des sujets qui nous intéressent. Rien ne me presse de finir mes brouillons. C'est aussi une bonne chose que je m'entraîne à trouver des mots spontanément en conversant. L'écriture de mon journal doit me donner beaucoup de mots que je peux utiliser, mais bien sûr, la taille du vocabulaire dont on dispose dans une conversation est inférieure à celle qu'on peut attendre en écrivant tranquillement avec beaucoup d'outils. Parler intimide beaucoup d'étudiants, mais plus on essaie, plus on progresse. Le reste de mes brouillons peut attendre le prochain rendez-vous ou peut-être que mes chers lecteurs me donneront des commentaires pour améliorer mon français. Si seulement la conversation était dotée de soulignements automatiques pour identifier mes erreurs. De toute façon, mon tuteur pour corriger mes erreurs en temps réel ou prendre des notes pour m'expliquer mes erreurs sans couper le fil de nos pensées. Si c'est acceptable, je peux aussi enregistrer le rendez-vous pour le transcrire automatiquement et le récolter plus tard. De temps en temps, j'utilise la reconnaissance vocale en temps réel via Live Captions sur Google Chrome pour les sous-titres instantanés. Cela m'aide à comprendre quand il parle trop vite ou utilise des mots que je comprends plus facilement en lisant qu'en écoutant à ce stade, même si les résultats ne sont pas très précis. Live Captions efface les sous-titres précédents pour afficher les sous-titres actuels au fur et à mesure. Mon outil de journalisation est plus pratique. En du temps à s'initialiser, et Google Chrome bascule souvent sur mon micro physique par défaut, ignorant le périphérique virtuel qui inclut le son de mon tuteur. Pas très fiable. Configure correctement mon système et que je garde la tête froide, c'est difficile en tant que débutante. J'ai pu utiliser mon raccourci clavier pour insérer les résultats de la reconnaissance vocale à la demande, qui est plus précis mais plus lent sur mon ordinateur. Mise à jour. Après les rendez-vous, je mets à jour mes enregistrements, mes sous-titres et mes ordres de tâches en suivant les commentaires de mon tuteur. Je les publie sur mon blog pour me responsabiliser et poursuivre mes progrès. Descartes Anki. J'extrais automatiquement le contenu des entrées dans des fichiers individuels par date pour l'analyser avec un logiciel Python qui repère les nouveaux lemmes, extrait les phrases qui les incluent et crée des cartes Anki qui utilise le texte à trous. Je préfère mémoriser les mots dans le contexte de la phrase plutôt que des mots isolés car je pense que ça minimise la tentation de traduire dans l'anglais. Je révise les cartes chaque matin quand je me lève parce que les phrases entrent dans ce système de répétition espacée pour les mémoriser. C'est bien qu'une vraie personne qui parle bien le français me corrige pour éviter d'ancrer des erreurs. Écoutez, je regarde aussi des émissions et des films doublés en français avec les sous-titres en français. Je vais télécharger les sous-titres sur mon ordinateur ou mon smartphone pour étudier à mon rythme. Ma fille s'est amusée quand nous avons regardé K-pop Demon Hunters en français ensemble, donc je suis prête à le regarder plusieurs fois pour travailler mon oreille en lisant les sous-titres. Un jour, je tenterai de les corriger. J'ai aussi téléchargé des chansons sur mon téléphone pour les écouter. Si je choisis des chansons familières, comme Disney ou K-pop Demon Hunters, je peux me concentrer sur elle si je veux et je peux aussi les laisser en fond sonore au cas où je devrais me concentrer sur autre chose. Les nombres. D'après mon outil de pointage, jusqu'à présent, cela représente un total de 216 heures ou une moyenne de 2 heures par jour depuis novembre. Mes cartes Anki prennent 20 minutes. Une émission prend une heure. En analysant mes données, je pense que l'apprentissage du français remplace le fait de jouer à Stardew Valley, qui a été mon obsession pendant un mois. Il a également réduit le temps consacré à l'écriture des articles en anglais pour mon blog et à la pratique du piano, mais je continue à faire ces activités. Les principales victimes de mon réaménagement de temps sont mon écriture en anglais et mes dessins tels que mes sommaires mensuels. Mon journal en français est plus minutieux que mon journal en anglais, donc ce n'est pas grave. Je peux toujours traduire si c'est nécessaire. Je pense que c'est facile d'augmenter le temps d'apprentissage du français grâce aux avantages cumulatifs qui rendent le temps plus plaisant. À l'avenir, je vais passer à deux rendez-vous de 45 minutes avec mon tuteur par semaine au lieu d'un rendez-vous d'une heure. Cela m'encourage à écrire de façon plus complexe, créer l'espace pour des conversations et évite que ma voix ne se fatigue. J'ai créé un logiciel pour analyser mon journal en utilisant la bibliothèque Spacy afin de compter les lèmes uniques dans mes textes pour que les mots similaires comme sa voix et ses soient regroupés sous un seul lemme. Je pense que c'est plus précis que de chercher les mots dans la base de données lexique. Jusqu'à présent, mon journal contient un total de plus de 31 000 mots ou plus de 2 500 lemmes uniques. J'accumule environ 25 nouveaux lemmes uniques à chaque entrée, ce qui est d'ailleurs légèrement supérieur à mon quota de nouvelles cartes en qui à apprendre, donc je n'arrive pas à rattraper mon retard qui ne cesse de grandir. Peut-être que je devrais augmenter ma limite si mon cerveau peut le supporter. Peut-être qu'un jour, presque tous les mots dans une entrée seront familières, mais pour le moment, je trouve toujours beaucoup de nouvelles pensées que je veux écrire et beaucoup d'idées d'amélioration que je veux essayer et partager. C'est très bien! Mes nouveaux loisirs ne durent pas toujours, mais parce que ces loisirs incluent l'aide de ma fille, le bricolage de mes outils, les souvenirs de mon journal et l'engagement psychologique de payer mes cours particuliers. Je crois que ça me convient probablement pour le moment. J'ai hâte d'apprendre davantage.